vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous allons parler des bienfaits de la méditation, un des domaines de recherche du projet Silver Study, qui a regroupé des scientifiques européens qui ont travaillé pendant 5 ans sur les facteurs déterminants de la santé mentale et du bien-être des seniors. Pour parler de cette thématique, nous sommes avec Gaëlle Chetela, directrice de recherche à l'INSERM, équipe Neuroprésage à Caen et coordinatrice du projet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de rentrer plus en détail dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est la Silver Study ?
Alors, la Silver Santé Study, c'est un gros projet européen qui est porté par un consortium européen fait de 11 partenaires et équipes de recherche dans 6 pays européens différents, qui vise à évaluer l'impact notamment de la méditation et puis d'autres facteurs de vie sur le bien-être et la santé mentale des personnes alors qu'elles prennent de l'âge.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette étude ?
Oui, tout à fait. Donc, dans ce projet européen, on a réalisé plusieurs études cliniques pour répondre aux questions qu'on avait. Donc, notamment, il y a 2 essais cliniques qui correspondent à des essais randomisés contrôlés, c'est-à-dire que des personnes vont rentrer dans un essai clinique et on va les répartir au hasard dans un groupe qui va méditer, puis un groupe contrôle. Le premier essai clinique, c'est chez des patients qu'on dit SCD, pour Subjective Cognitive Decline, qui ont en fait une plainte amnésique, qui vont consulter leur médecin, leur neurologue, parce qu'ils sont inquiets. Ces personnes-là, eh bien, on a évalué chez elles l'impact d'une intervention de 8 semaines sur un certain nombre de critères, dont l'anxiété, qui est un paramètre important chez ces personnes-là, puisque c'est ce qui les amène à consulter. Et en général, comme elles n'ont pas de troubles, elles repartent chez elles, parfois en gardant l'anxiété. Cette première étude a été coordonnée par Nathalie Marchand en Angleterre et puis menée dans 4 pays européens. La seconde étude, elle est complémentaire en ce sens qu'elle a porté également chez 150 volontaires de plus de 65 ans, sans déficit cognitif, l'intervention durait 18 mois, donc des programmes originaux de méditation d'une part, d'anglais d'autre part pour le groupe contrôle actif, et puis on avait un troisième groupe qui correspond à un groupe sans intervention, ces interventions duraient 18 mois et des programmes originaux ont donc été mis en place à la fois pour durer 18 mois et puis pour s'adresser plus spécifiquement à la population d'intérêt, qui est une population donc de plus de 65 ans, sans déficit cognitif. Ces personnes ont eu un ensemble d'examens, au-delà des examens comportementaux, il y a eu beaucoup d'examens également biologiques, à la fois sanguins et de neuroimagerie, donc tout un panel d'examens complémentaires. On a exploré également sur toute leur couture les facteurs de vie de ces personnes, comment elles mangent, comment elles font de l'activité physique et cognitive, mais aussi le sommeil, qui étaient d'autres facteurs qui nous intéressaient particulièrement. Donc ils ont eu l'ensemble de ces évaluations avant et après l'intervention de 18 mois, afin d'évaluer l'impact de l'intervention, des interventions, sur toutes ces mesures. Cette étude a été conduite uniquement à Caen, de telle sorte d'avoir des données où il y avait une homogénéité à la fois dans les mesures réalisées, cet ensemble de mesures, y compris de l'imagerie assez poussée, etc., et d'autre part également dans les programmes, puisqu'il s'agissait de programmes originaux, et donc de pouvoir proposer ces programmes de la même façon, par les mêmes intervenants, dans le même langage.
Alors, quels autres résultats avez-vous pu observer suite à cette étude ?
Dans le cadre de cette étude, on a pu montrer chez les patients SCD, la première étude, une diminution de l'anxiété après les 8 semaines de méditation, une diminution de l'anxiété qui était maintenue au suivi à plus long terme, à 6 mois, donc des résultats très encourageants. Cette diminution était équivalente à celle observée pour la condition contrôle d'éducation à la santé, dont on sait qu'elle a un impact positif dans cette population. Donc ça, c'est pour la première étude, SCD-Well. Dans l'autre étude, sur les 150 personnes de plus de 65 ans menées à Caen, qui s'appelle Age-Well, nous avons pu montrer qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur la structure du cerveau. Par contre, la méditation avait une tendance à mieux préserver le fonctionnement de certaines structures cérébrales et surtout avait un impact, cette fois significatif, sur des mesures comportementales de régulation attentionnelle et socio-émotionnelle, qui sont des aspects importants dans le cadre du vieillissement et notamment pour le bien-être, puisque ce sont des mesures qui sont très liées au bien-être dans le vieillissement. D'autres analyses sont en cours pour évaluer l'impact de la méditation et de l'anglais sur tout le set de mesures dont je vous ai parlé. Et donc, d'autres résultats vont arriver dans les semaines et années à venir.
Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, quand on parle de méditation, on fait référence à quoi exactement? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est être assis, respirer, mais est-ce que c'est vraiment que ça?
Alors, merci pour cette question. C'est important, effectivement, il y a beaucoup de fausses idées, de fausses croyances sur ce qu'est la méditation. Donc, on peut dire déjà que ce n'est pas rester assis pendant des heures sans bouger, sans rien faire, se relaxer uniquement. Voilà, c'est quelque chose où en fait, c'est un entraînement mental. Donc, c'est pas juste de la relaxation ou vider le cerveau. C'est un entraînement mental. Donc, on est en train de faire un exercice dans son cerveau et d'entraîner son cerveau. Donc cet entraînement, il est divers parce qu'en fait la méditation c'est une grande famille de pratiques, ça regroupe des pratiques assez différentes. En science, on utilise surtout la méditation pleine conscience parce qu'il y a des programmes standardisés qui ont été développés. Donc c'est pas du tout lié à une religion, hein, contrairement à peut-être les fondements des pratiques méditatives qui sont souvent reliés au bouddhisme. Là, c'est des pratiques qui ont été développées, notamment pour les pays occidentaux et en tout cas qui ne sont pas associées à des religions spécifiques. Et donc, ces programmes de 8 semaines de type MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, c'est des programmes qui sont principalement fondés sur la méditation pleine conscience. Nous, dans notre programme Meditaging ou Silver Santé Study, on a développé un programme, comme je vous disais, spécialement dédié à l'étude, où sur la base de données théoriques, de modèles, de mécanismes d'impact de la méditation dans le vieillissement, eh bien, on a proposé que l'association sur une durée de 18 mois d'une méditation pleine conscience et compassion-bienveillance était particulièrement bénéfique et complémentaire dans le cadre du vieillissement. La méditation, c'est pas juste ne rien faire et se relaxer, se vider le cerveau, c'est faire un exercice mental qui consiste, qui peut être variable d'une pratique de méditation à une autre et qui consiste à réguler les capacités attentionnelles et émotionnelles au moyen de ces exercices divers.
Alors, en quoi est-ce une pratique intéressante si on parle de patients Alzheimer?
On pense que la méditation est une pratique importante dans le cadre de la maladie d'Alzheimer parce que il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et qui sont de plus en plus reconnus. Ces facteurs de risque, ils sont vraiment importants parce que ils sont modifiables et ils expliquent presque un tiers des cas de maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'au il constitue un levier important pour réduire le nombre de cas de maladie d'Alzheimer et les risques de développer cette maladie. Parmi ces facteurs de risque, on retrouve un manque d'activité cognitive, un manque d'activité physique, les facteurs de risque cardiovasculaires, etc. Mais on a aussi des facteurs de risque psycho-affectifs qui représentent plus les facteurs émotionnels du vieillissement. Par exemple, la dépression, qui est reconnue comme un des facteurs de risque majeurs chez les personnes âgées, mais aussi d'autres: stress, anxiété, problèmes de sommeil également, les pensées négatives récurrentes, etc. Et en fait, ces facteurs négatifs psycho-affectifs, ils sont rarement ciblés par les techniques de prise en charge actuelles, basées sur une modification du style de vie. Donc on va proposer habituellement de renforcer l'activité cognitive, l'activité physique, de modifier le régime alimentaire. On va faire de l'éducation aux facteurs de risque cardiovasculaire pour les réduire. Mais jusqu'à présent, il y avait trop peu de pratiques qui se proposaient de cibler directement les facteurs de risque psycho-affectifs du vieillissement, dépression, anxiété, stress, qui sont les cibles directes, les objectifs directs d'un entraînement à la méditation.
Alors justement, avec tous ces effets, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit sur des images du cerveau, par exemple?
Alors c'est une bonne question. Il faut vraiment se rendre compte que la recherche en neuroimagerie sur la méditation et de façon plus générale en science sur la méditation, c'est assez nouveau. Et donc, on on dispose d'un certain nombre de résultats, mais ces résultats sont souvent critiquables, peu fiables, et qu'on a vraiment besoin d'avoir plus de recul et d'études bien consolidées, bien fiables, solides, pour certifier ces résultats. Néanmoins, des résultats encourageants ont été montrés et suggèrent l'implication de structures cérébrales particulières, comme, je vais en citer quelques-unes juste, mais comme le cortex singulaire antérieur, l'insula, le cortex singulaire postérieur, le lobe frontal. Voilà, différentes structures qui semblent revenir souvent dans les études qui se sont intéressées aux régions qui vont être modifiées par une pratique de la méditation. Et justement, c'est sur la base de cette littérature, principalement chez le sujet jeune, donc des participants jeunes, que l'on a pensé que la méditation pouvait être bénéfique également dans le cadre du vieillissement, parce que ce sont des structures qui sont sensibles au vieillissement, qui vont avoir tendance à s'altérer au cours du vieillissement physiologique. Et donc, renforcer, solliciter ces régions-là pourrait être bénéfique dans le cadre du vieillissement.
Alors, il y a aussi la méditation qui, j'allais dire, c'est plus à la mode maintenant que ça ne l'était avant. Est-ce que ça a été facile de démontrer scientifiquement ces effets bénéfiques?
Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode, et puis il y a une espèce de méfiance par rapport à ces pratiques, soit parce qu'elles peuvent sembler, ou elles étaient associées à une image plus ésotérique, soit parce que, justement, il manquait de peut-être programmes bien standardisés pour être utilisés en science. Je pense qu'une des premières difficultés, ça a été d'enlever les fausses croyances sur la méditation et de peut-être convaincre qu'on pouvait faire des études scientifiques sérieuses, bien menées et convaincantes sur ce sujet-là. Le fait que l'Europe ait financé ce projet au cœur duquel on avait la méditation dans le vieillissement, je pense que ça a été un signal très fort en faveur d'une certaine crédibilité à la fois du projet et puis de façon plus générale peut-être de la croyance que cette approche pouvait être bénéfique dans le cadre du vieillissement. Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, 186 projets ont été déposés, seuls 3 ont été financés, ce sont des gros financements et dans le cadre d'appels d'offres très compétitifs, et donc c'est en cela que je veux dire que c'est un signal fort et positif du fait que la méditation peut être considérée comme une approche sérieuse avec une méthodologie fiable pour tester son efficacité dans le cadre des populations vieillissantes. Alors après, il va falloir, comme c'est une approche quand même assez nouvelle, trouver les outils les plus sensibles pour prouver l'efficacité de cette technique dans le cadre du vieillissement, sur quoi elle agit, quelles sont les mesures qui vont nous permettre de le montrer. Eh bien, c'est encore des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler.
Alors, Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, a été l'ambassadeur du projet. Ça en dit long sur l'importance de la méditation.
Donc, effectivement, on a pu bénéficier du soutien sans faille de Mathieu Ricard dans ce projet, à la fois en tant qu'ambassadeur, pour également nous aider à identifier des experts méditants âgés de plus de 65 ans qui faisaient également partie du programme. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, j'ai parlé des études interventionnelles, mais on s'est également intéressé à un groupe de 30 experts méditants de plus de 65 ans qu'il a fallu donc sélectionner et puis impliquer dans cette étude pour nous apporter vraiment plein d'informations sur les mécanismes extrêmement importantes. Et donc Mathieu Ricard nous a soutenu également là, et enfin en participant justement à l'étude en tant qu'expert. Donc ça a été, c'est vrai, un réel soutien dans ce projet.
Alors pour autant, la méditation doit aussi s'accompagner d'un changement d'habitude de vie quand même, hein, en termes de nutrition, de sommeil. En fait, c'est un tout, est-ce qu'on peut dire ça?
C'est exactement ça, et c'est aussi pour ça qu'on pense qu'une intervention de plus longue durée est importante si on veut aussi réussir à installer une modification du style de vie. La méditation, c'est changer ses schémas mentaux, ses réflexes mentaux qui peuvent être parfois négatifs, et implémenter des schémas mentaux, à nouveau automatiques, mais positifs. Et donc ça peut prendre du temps en fait pour changer ses habitudes quelque part, hein, ses schémas mentaux, c'est des habitudes réflexes que l'on va avoir et qui peuvent parfois avoir un impact négatif. Donc ça prend du temps de modifier ces schémas mentaux d'une part, et d'autre part, la méditation, eh bien effectivement elle peut s'étendre à d'autres domaines. C'est au départ une pratique d'entraînement mental, mais qui va diffuser sur notre façon de vivre. Et donc vous avez raison, effectivement, on peut s'attendre à ce que la méditation modifie également notre style de vie, et ce, de façon positive dans le cadre du vieillissement et des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, donc du coup, est un impact à plus long terme sur d'autres facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, comme activité cognitive, activité physique, régime alimentaire, facteurs de risque cardiovasculaire. Mais encore, faut-il le prouver. Donc en théorie, c'est ce qu'on attend, et pour l'instant, ça reste à prouver.
Et justement, vous parlez de ce qui reste à prouver. Est-ce que vous avez des futures études qui vont voir le jour, de futurs projets pour justement toujours aller plus loin dans ces découvertes?
Alors oui, nous avons eu la chance dans le cadre de ce projet de pouvoir recueillir des données vraiment multiples, très riches, très complémentaires. Je vous parlais du sommeil qu'on a exploré vraiment sur toutes ses coutures, la plainte, l'aspect subjectif du sommeil, mais aussi en actimétrie, en polysomnographie, avec des outils qui permettent vraiment d'avoir des mesures très précises et objectives du sommeil. C'est qu'un exemple, qu'un des aspects, les mesures sanguines également, avec plein de biomarqueurs, etc. Donc déjà, il va nous rester 5 ans, 10 ans, 15 ans d'analyse pour essayer de balayer l'ensemble des impacts espérés ou attendus ou théorique de la méditation. D'autre part, on a eu la chance d'avoir un financement complémentaire de la région Normandie qui nous a permis de faire un suivi à plus long terme, parce que la méditation, on a dit, elle va agir à différentes échelles de temps sur différents paramètres, et donc c'était vraiment important pour nous de faire ce suivi à plus long terme. Comme ce suivi à plus long terme est arrivé après la période de Covid, et bien pendant les 3 ans, nous avons recueilli également des données sur l'état mental des participants à l'étude pendant cette période, et donc on va pouvoir également tester cela et avoir des résultats sur comment les personnes ont vécu cette période de confinement, c'est répété, en fonction des interventions dont ils auront bénéficié. Enfin, on est en train de développer une application de méditation, parce que notre souhait, c'est que ce programme qui a été développé pour ce projet européen, qui a été testé dans le cadre d'études qui ont bénéficié vraiment d'un financement et d'un cadre et de données très importantes, eh bien, puissent à la fois bénéficier à un plus grand nombre de participants, et puis, dans le cadre de cette appli, on va continuer à recueillir des données qui vont nous permettre de toujours mieux comprendre les mécanismes d'action de la méditation et optimiser, du coup, cette application et le type de méditation qu'on propose. Pour continuer à être informé sur justement les résultats qui vont venir et puis sur la sortie de cette application dès qu'elle sera prête, eh bien, je vous invite à consulter le site silversantestudy.fr dans lequel nous mettons à jour les actualités.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Gaëlle Chetela, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Continuez bien sûr de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.